Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Yasmine Abdel-Fadel. Une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les non-dits. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe.
Cube Radio, Cube Radio.
Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel.
Lundi 15 août, bienvenue sur les ondes de Cube Radio. Merci de nous avoir choisis pour votre routine matinale. Très heureuse de vous retrouver. Après cette très belle fin de semaine, disons-le franchement, on a été gâtés. C'était plein soleil, des belles températures estivales. Puis évidemment, quand on arrive au 15 août, on sait que l'été a plus de passé que d'avenir, du moins pour 2022. Donc des belles journées comme ça, on les prend et on en profite. L'actualité a également été très riche cette fin de semaine et même ce matin. Bien évidemment, il y a eu cette attaque dont a été victime Salman Rushdie à New York, cet auteur et conférencier sur qui une fatwa avait été lancée en 1989 suite à son livre Les versets coraniques, sataniques. Il a été attaqué au début d'une conférence qu'il tenait à New York, qui a été poignardé assez gravement. Il a été transporté en hélicoptère vers un hôpital et a été mis sous respirateur artificiel. On a appris hier qu'il a finalement recommencé à respirer par lui-même et qu'il était même en mesure de parler avec sa famille. L'assaillant a été appréhendé sur place. On parle d'un homme de 24 ans et évidemment va être traduit devant la justice. Sinon, hier, le Parti conservateur du Québec d'Éric Duhaime a dévoilé la fameuse plateforme électorale en vue du scrutin du 3 octobre prochain. Je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'officieusement, la campagne est pas mal lancée, les plateformes se dévoilent, les nominations qui se finalisent, et même des petits coups, des petites attaques là qui commencent qu'on commence à entendre ici et là. On a vu Dominique Anglade cette fin de semaine au Congrès jeune déjà dire vouloir en découdre avec François Legault et la CAQ. Ça promet pour le reste de la campagne. Mais là, revenons à Éric Duhaime, sa plateforme électorale dévoilée hier. Déjà, elle porte un nom, Liberté 22.
On promet aux citoyens de leur améliorer leur qualité de vie en leur donnant plus de liberté. François Legault, depuis 2 ans et demi, veut être maître chez vous. Nous autres, on promet aux gens d'être plus libres chez nous.
En gros, il met l'accent sur 6 grands thèmes. L'économie, le logement, la santé, les transports, l'environnement, l'éducation et la famille. Mais on parle pas d'autre chose, là. C'est pas mal ça, les sujets sur lesquels il veut se concentrer. Et s'il est élu, le chef conservateur promet de remplacer le projet du tunnel Québec-Lévis par un pont à l'est de la ville de Québec. D'autres propositions risquent de faire sourciller les Québécois. L'augmentation de la part du privé en santé, l'abondance du système public de garderie, la relance de l'exploitation gazière et pétrolière, l'allègement des règles imposées aux propriétaires de logements. Oui, oui, vous avez bien entendu, ce seraient les propriétaires qui auraient un allègement des règles imposées et non les locataires qui se battent pour se trouver un toit. Sinon, on parle pas de langue, on parle pas d'immigration, on parle pas de culture. On va voir si cette plateforme électorale va trouver écho auprès des électeurs. On va le savoir le 3 octobre prochain. Dans Le Devoir ce matin, on apprend que le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, il va être à Rouyn-Noranda aujourd'hui pour faire une annonce sur l'arsenic. On se rappelle de toute l'histoire de la fonderie Horn et toute la concentration des particules d'arsenic. La semaine dernière, il y avait la santé publique qui a émis une recommandation que les concentrations en particules puissent dépasser de 5 fois les normes nationales. 5 fois. Est-ce qu'il va annoncer que le gouvernement va exiger la même chose que la santé publique? Est-ce qu'il va demander tout simplement à ce que la norme nationale qui s'applique partout ailleurs, qui est de 3 nanogrammes par mètre cube, soit applicable aujourd'hui et maintenant? on le sait pas. Mais ça risque d'être une annonce difficile, peu importe la décision du gouvernement dans ce dossier. Parce que s'il annonce une norme nationale de 3 nanogrammes par mètre cube, ben évidemment, ça va apporter des répercussions sur le plan économique. Si c'est le contraire, ben on va lui reprocher de ne pas mettre la santé publique en avant. Dans la presse ce matin, et je voulais vous en parler, il y a une sordide histoire qui a été relatée par la chronique d'Isabelle Haché. Puis là, déposez votre café parce que vous risquez de le boire de travers. Imaginez qu'une jeune fille qui a été violée par son colocataire. Il a fait d'autres victimes. Il a été reconnu coupable. Il fait de la prison. Inscrit à perpétuité dans le registre des délinquants sexuels. Ben, cette fille-là, elle est tombée enceinte suite à ce viol, a décidé de garder l'enfant. Ben, le violeur, qui est biologiquement le géniteur de cet enfant, lui a entamé des procédures en vue d'établir le lien de parenté avec l'enfant né de cette agression. Il a demandé un test d'ADN pour lequel la jeune fille a dû se plier. Elle était dans l'obligation de se plier. Et maintenant que c'est prouvé qu'il est biologiquement le père, ben il demande à ce que le nom de famille du garçon change pour lui donner le sien. Il veut avoir des droits de visite. Bref, il veut avoir des droits de père. La victime, cette jeune fille, elle va devoir affronter son agresseur encore une fois devant les tribunaux pour que ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'au Québec, un peu comme en Alabama, le droit a été rédigé uniquement en fonction de l'intérêt de l'enfant et non celui de la mère. Et les circonstances de la conception ne sont pas prises en considération. Écoutez, c'est aberrant, c'est cruel, c'est vraiment inhumain. Un violeur reconnu, délinquant, dangereux, a plus de droits que sa victime. C'est aussi simple que ça, c'est ça le message que l'on envoie à la société. Et si ça, ça ne relance pas le débat sur la réforme du droit de la famille qui est demandé depuis de tous les parties prenantes entourant les droits de la famille, les avocats, les associations, ben je sais pas qu'est-ce que ça prendra d'autre. Notre droit de la famille date des années 80. Je suis personnellement sidérée par la situation. J'espère beaucoup de courage à cette jeune femme qui est aujourd'hui victime d'un système digne du Moyen-Âge.